Moi, c'est André de Mbujimayi au Kassai Oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous dans cet échange de paroles aux auditeurs. La Commission nationale de lutte contre la fraude minière dénonce ce qu'elle qualifie des trafics d'influence de quelques responsables politiques, militaires, administratifs lors des saisies des minerais fraudulés au Nord Kivu. On cite notamment le cas d'un officier militaire actuellement en détention depuis environ 3 mois pour avoir tenté de faire passer 600 kg de coltan vers le Rwanda. Depuis, la commission dit subir des pressions de certains hauts gradés de l'armée. Et selon Daniel Ngoimbayo, responsable de cette structure au Nord Kivu, ces pratiques limitent les actions de sa structure dans la lutte contre la fraude minière sur terrain. Selon vous, que faut-il faire pour rendre la lutte contre la fraude minière efficace sur l'ensemble du pays? Nos deux lignes sont déjà disponibles pour vos interventions en direct. C'est les 081-890-4969 et 09-97-06-4969. Vous pouvez aussi commenter ces sujets sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Alain Goy est à la mise en onde de ce magazine réalisé par Nico Kalambay et Pierrot Elameji a le réel plaisir de vous les présenter sous la supervision de Martin Sebujangwe. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot Elameji.
Rappelons que lors de les 30 novembre 2017, c'était le 30 novembre dernier, lors de journées minières qui ont été la 4e journée minière qui était organisée à Goma, une note positive a été présentée qu'il s'agit des 36 millions de dollars américains que l'exportation des minerais au Nord Kivu a rapporté de janvier au 30 novembre, disons, cette année, 36 millions de dollars. Ça, c'est la note positive, entrée dans la caisse de l'État par rapport à l'exploitation minière dans la zone. Mais la note négative, c'est depuis plusieurs jours, beaucoup de cas, des saisies, des minerais qui sortent du Nord Kivu vers le Rwanda, dans les véhicules, y compris les véhicules de certaines structures internationales. Des cas ont été rapportés et nous en parlons avec vous. Comment arriver à rendre efficace la lutte contre la fraude minière dans cette province, mais aussi à travers le pays? Et pour en parler, nous avons associé Monsieur Daniel Ngoimbayo, responsable de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière au Nord Kivu. Monsieur Ngoï, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, Monsieur Pierrot.
Alors, vous êtes sur terrain. Dites-nous concrètement, comment se présentent les tableaux aujourd'hui de cette question des fraudes minières? On en a tellement parlé sur nos antennes dernièrement.
Merci beaucoup, mais il faudrait d'abord quand même que nous puissions rappeler les contextes miniers de la province du Nord Kivu pour permettre à ce que les auditeurs soient en mesure de comprendre pourquoi nous en sommes arrivés à une fraude massive. La province de Nord Kivu est à l'est de la République démocratique du Congo, avec une superficie plus ou moins de 59 483 km², avec plus ou moins 6 millions d'habitants. La province de Nord Kivu regorge des ressources, notamment l'étain, le tantal, le niobium, le wolframite, les terres rares avec du lithium et du zircon, et des pierres de couleur que nous avons comme la tourmaline, l'améthyste et les grenats. Mais toutes ces ressources ont une certaine localisation. Quand vous allez dans la partie ouest, dans les territoires de Massissi et Walikale, la minéralisation est beaucoup plus sur l'étain, l'odium, tantal, wolframite, platine, molybdène et les terres rares. Et bien sûr, à quelques rares cas, la tourmaline noire et les grenats. Mais quand vous êtes sur le long de la rivière Osso, vous y trouverez beaucoup d'occurrences d'or et dans la partie située au nord-est de Bissier. Et quand vous allez au côté centre de Rutshuru, on trouve à l'ouest des terres dolomitiques riches en pyrochlore. Et quand vous venez du côté du nord, à Lubero, à Boutembo, ainsi qu'à Beni, là nous y trouvons beaucoup plus de tungstène, et puis nous trouvons aussi de l'or alluvionnaire, y compris la cassiterite, et même de l'or qui vient dans l'Itourie et qui transite par Beni vers Kassindi. Alors, quel est le concept d'exploitation minière ici pour comprendre pourquoi nous sommes victimes d'une fraude massive? Alors, ici, malgré de grandes énormes potentialités qui regorgent la province de Nord Kivu, l'exploitation minière ici au Nord Kivu est restée artisanale. Ça, il faut qu'on le fixe. Il est prouvé partout dans le monde que l'exploitation artisanale n'a jamais développé une contrée, mais à long terme, on a constaté que l'exploitation artisanale pose beaucoup de conflits entre les entités, les regroupements socioculturels. C'est le cas des territoires de Walikale, et puis c'est le cas des situations que nous trouvons à Matissi. Néanmoins, il est arrivé à un moment où il y a l'arrivée de certaines sociétés minières industrielles, telles qu'Alphamine, qui est en train d'industrialiser une mine souterraine à Walikale, et Somekivu, à Rutshuru, qui est en train de travailler pour la problématique du pyrochlore. Ces investissements industriels s'encadrent facilement et posent facilement la création des emplois et contribuent directement au budget, éventuellement le développement des infrastructures de base et aussi le transfert des technologies avec l'extérieur. Tout ceci a démontré que pour bien cerner la problématique des Nord Kivu, la fraude, c'est d'autant plus qu'elle s'opère dans l'exploitation industrielle. Les investisseurs, je donne un exemple, un village où les gens du contrée du village se mettent à exploiter, ils retrouvent du coltan. Pour eux, ce coltan leur revient de droit sur le plan coutumier, alors qu'il y a des règles. Un investisseur qui arrive, qui finance ses recherches auprès du ministère national, qui finance la prospection, qui découvre qu'il y a des gisements estimés, en ce moment-là, on leur octroie le permis de recherche en premier lieu, et puis on leur octroie les permis d'exploitation pour leur permettre d'industrialiser. Ça, c'est conformément à l'article 64 du Code minier, et qui oblige les de ce... Mais en attendant, là, on octroie ce périmètre. Il y a les paisibles patriotes congolais, ils y sont de droit.
Alors, monsieur Ngoï, s'il vous plaît. Oui, monsieur Ngoï, vous avez présenté ces tableaux. Et si nous restons dans le cadre où vous avez dit la grande exploitation aujourd'hui reste artisanale, mais d'un côté à l'exploitation industrielle où on regarde plus la fraude. Mais rappelons quand même qu'il y a la loi, qu'il y a les structures qui existent. Alors, quel est le degré aujourd'hui du travail qui doit être fait sur terrain dans le contrôle, dans la certification et dans la traçabilité, parce qu'il y a quand même des structures qui existent un peu rapidement par rapport, que ce soit dans l'exploitation artisanale ou exploitation industrielle.
L'exploitation industrielle ne pose aucun problème parce qu'elle est contrôlée, c'est des engins, ils ont leur garde et les productions sont contrôlées du matin au soir. Mais l'exploitation artisanale pose problème. Pourquoi? Parce que l'exploitation artisanale se regroupe deux fois dans des coopératives. Et il y a un sérieux problème. D'abord, il y a un problème de sensibilisation et de renforcement des capacités. Deux, il y a un problème de prix que nous trouvons entre les creuseurs qui souffrent dans la mine, aux négociants qui achètent et aux entités qui achètent. Ça pose problème et quand le prix n'est pas très bien régulé, la tentative commence déjà à pousser aux gens d'aller amener les minerais ailleurs. Il y a aussi un problème où vous avez des sites de l'exploitation artisanale où on n'est même pas en mesure d'enregistrer réellement quelles sont les quantités de trésors que nous avons là-dedans. Et cela, ça pose problème de savoir qui contrôler. Le service d'encadrement, le CMAP qui est censé encadrer, est en difficulté de logistique, est en difficulté de personnel pour encadrer 60 pouilles. Et le système de traçabilité mis au point aussi, de même, le système de traçabilité n'a pas assez de personnel pour contrôler tout
voilà.
Ce qui se passe.
Alors, en vous écoutant, ça veut dire qu'il y a plus de problèmes aujourd'hui dans l'organisation administrative du contrôle de cette exploitation. On va revenir à vous, le temps d'écouter. Qu'est-ce qu'en pensent aussi les auditeurs qui sont ici à Kinshasa ailleurs? Vous êtes nombreux vraiment à vouloir commenter ces sujets. La faiblesse dans le contrôle, dans la traçabilité, voilà les vrais problèmes qui se posent. Et la question des trafics d'influence que vous avez dénoncé, on va en parler tout à l'heure. En attendant, on retourne ici à Kinshasa avec vous, Félicien. Merci de nous avoir contacté. Bonjour.
Bonjour, Pierrot. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi et bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Oui, mais vous me posez la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à cette situation. Et moi, je pense que la seule solution, c'est de chercher à obtenir un état de droit là où la loi est au-dessus de tout le monde. Et au moins, les structures peuvent fonctionner normalement. Mais dans des pays autocratiques, dans des systèmes où il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'état de droit, je ne vois pas qu'est-ce que cette structure peut bien faire, parce que ceux qui font cela sont ceux qui sont des intouchables, qui sont au-dessus de la loi. Il n'a ni les moyens, ni la possibilité de contraindre ces gens-là à respecter la loi. Et ces gens-là sont libres de faire ce qu'ils veulent, et tous ceux qui leur sont fidèles aussi font la même chose. Et généralement, ils sont dans des pays sans démocratie, qu'on trouve trop de structures, mais qu'on ne respecte pas. Comment on peut expliquer que le Rwanda, qui n'a pas de coltan, construit une usine de transformation de coltan? D'où vient ce coltan, d'où vient ce minerai? Et la structure est où? Comment, qui ne voit pas des hélicoptères, des avions qui sont en train de se poser sur les routes et dans les cuves pour venir prendre ces minerais et partir avec? Qu'est-ce que la structure? Et si vraiment il y avait des structures, si vraiment il y avait un état de droit, ces minerais auraient déjà changé la vie de la population, et surtout dans les contrées où ils sont extraits, parce que quand on est en train de prendre les minerais d'un pays, on doit laisser quand même des traces. On doit quand même construire.
Alors, Félicien, pensez-vous aujourd'hui, qu'on puisse se résigner dans ces conditions ou faudrait-il arriver à faire quelque chose? Vous avez évoqué les cas de l'état des droits. Faudrait-il encore avoir la volonté d'instaurer cet état des droits pour que, par ricochet, on puisse résoudre la question de la fraude minière?
Oui, mais nous devons tous nous battre pour arriver à un état des droits. Donc, il faut que les Congolais comprennent que la bonne gouvernance n'arrivera jamais dans des systèmes tels que nous les avons aujourd'hui depuis Mobutu. Donc nous pouvons tout dire, nous pouvons tout faire, nous n'arrivons jamais au résultat. Donc la seule voie, c'est avoir un état de droit. Quand on en aura, tous les restes marchera comme sur les roulettes.
Voilà, merci. Donc, beaucoup. Merci beaucoup, Félicien. Voilà, la question, c'est que les gens, tout le monde s'engage dans l'état des droits, l'instauration de la bonne gouvernance, et par ricochet, on va résoudre la question de la fraude minière. Édouard, vous êtes à Kisangani. Bonjour, Édouard. Édouard, bonjour.
Bonjour, bonjour, Radio Okapi. Je suis en ligne.
On vous écoute, Édouard.
Oui, j'étais d'abord à remercier la Radio Okapi parce que c'est toute ma première fois de participer à l'émission. Alors, d'entrée de jeu, je me rallie totalement à ce que vient de dire Félicien. Donc, le problème réside au niveau de la justice, M. Kiro. Tant que la justice de notre pays, comme je l'ai dit sur ma page Facebook, tant que la justice de notre pays serait les mêmes liés, en tout cas, on ne trouvera jamais solution à ces problèmes. Vous savez très bien que ce sont les gens même qui sont les commanditaires de cette pratique éhontée, ce sont eux aussi qui sont à la base d'entrave à la justice. Alors, tant que notre justice n'aura pas les moyens nécessaires pour mettre fin à ce genre de pratiques, en tout cas, nous ne serons pas que pour pleurer.
Merci.
Et pour déplorer,
voilà,
ce cas.
Merci. Vous rabattez à la justice. Il n'y a que la justice qui peut arriver à aider à mettre fin à cette situation. Merci beaucoup, Édouard. On revient à vous rapidement, Daniel Ngoimbayo. Alors, vous avez présenté la faiblesse des structures qui doivent contrôler sur terrain. Mais alors, au niveau de la commission, quels sont les moyens que vous avez aujourd'hui qui peuvent vous permettre de faire face à cette fraude?
Merci beaucoup. J'ai aimé les préoccupations de nos compatriotes. Je dois dois les informer que la problématique de droit concerne tout le monde. Si le huissier respecte le droit, le Premier ministre respecte le droit, si chaque Congolais, si les 80 millions de Congolais que nous sommes, chacun dans le domaine de la vie nationale, arrivait à respecter le droit, à faire des choses positivement, c'est à ce niveau-là qu'on trouvera des solutions. L'état de droit où le droit n'est pas l'apanage de quelqu'un d'autre. Même un domestique, il doit respecter l'état de droit. Les fonctionnaires, quand ils respectent leur état de droit, les étudiants, quand ils respectent leur état de droit, ne pas tricher, à étudier très bien pour être des bons produits dans la société, c'est une affaire où chacun, dans tous les domaines de la vie nationale, doit respecter l'état de droit. Je crois que notre pays n'aurait pas assez de problèmes. C'est un problème d'ensemble. Mais pour la problématique de la justice, je tiens à informer à notre ami que nous sommes pilotés par le coordonnateur national de lutte contre la fraude minière, M. Pascal Nimbo. Il n'aménage personne.
Voilà, on a...
un véhicule du parquet de grande essence. S'il vous plaît, nous avons arrêté un véhicule. La Commission nationale de lutte contre la fraude minière provinciale du Nord Kivu a arrêté un véhicule du parquet de grande instance avec des indices de minéralisation, ils sont arrêtés. Donc notre justice ici en Nord Kivu est fonctionnelle parce que le gouverneur n'accepte pas la fraude. Nous avons intercepté trois véhicules. Un véhicule de ACR qui a mis ça à CNR. Nous avons accepté deux véhicules de lutte contre la faim alors qu'il lutte pour la faim avec plein de quotas à l'intérieur. C'est pour vous dire que la Commission nationale de lutte contre la fraude minière, dès qu'elle a été constituée, elle a reçu les expertises de tout le monde. La justice, le procureur est membre. L'auditorat militaire est membre. L'armée est membre. Le cabinet de la présidence est membre. Tout le monde est membre pour apporter son expertise. Je vous donne quelques cas éloquents que nous avons saisis ici chez nous, Nord Kivu, sans aménager qui que ce soit sur la conduite du gouverneur et le coordonnateur national du contrat de minière, arrêter un véhicule du parquet de grande instance, c'est pas le but qu'il n'y a pas de justice. C'est
alors,
pas suffisant.
Voilà.
Pour vous faire voir que
s'il vous plaît, monsieur Daniel.
De tout le monde,
voilà.
Mais la Commission nationale de lutte contre la fraude minière essaye de tout faire.
Voilà. Monsieur Daniel Ngoï, on sait que la province.
Que nous avons, c'est la
oui, on sait que la province, elle est grandouille.
Pour obtenir l'adhésion de tous les membres de la Commission de lutte contre la fraude minière, y compris les généraux qui sont membres, y compris les procureurs qui sont membres, nous avons obtenu une même vision pour dire. Nos mines sont épuisables et ils ne sont pas renouvelables. Nos mines ont été obtenues après un processus géologique de millions d'années et nous ne pouvons pas nous le permettre de les faire.
Alors, monsieur Mbayo, ça. Voilà. Oui, monsieur Mbayo, mais quand on va en pratique aujourd'hui, monsieur Mbayo, s'il vous plaît, quand on part en pratique aujourd'hui, y a-t-il aujourd'hui des comptoirs agréés à Goma, au Nord Kivu, qui achètent ces minéraux? Est-ce qu'y a-t-il aujourd'hui des comptoirs qui achètent des minéraux aujourd'hui au Nord Kivu? Voilà, monsieur Mbayo a des petits soucis pour l'interactivité avec nous. Peut-être que les amis qui sont avec lui au studio peuvent l'aider à savoir et réécouter un peu pour qu'on puisse faire l'interactivité en ce moment. Mais en attendant, Amos, vous êtes à Bukavu. Merci de nous avoir rejoints dans ces débats. Amos, bonjour.
Bonjour, Pierrot et Lamézi. Bonjour à tous les étudiants de la radio de la paix.
On vous écoute, Amos.
Merci bien. En fait, nous sommes tellement intéressés d'utiliser au studio. Mais moi, je me dis, si vous essayez d'analyser la situation des fraudes minières, sur toute l'étendue de la RDC, et cela particulièrement à l'Est, vous allez comprendre que c'est un dossier purement délicat et difficile à résoudre. Pourquoi je le dis? Parce que toutes nos autorités du sommet à la base sont impliquées dans le commerce des minéraux. Et cela en complicité avec nos pays voisins. Il faut voir, je suis vu parmi ceux-là qui ont appelé, aujourd'hui, si le Rwanda est devenu ce qu'il est devenu, ce minéraux congolais, moi-même j'ai été de passage à Walikale à un moment donné, il fallait voir comment des colis de minéraux castérites et coltan quittaient Walikale pour le Rwanda. Et en faisant cette analyse, on peut comprendre que non, il y a une certaine complicité, malheureusement soutenue au sommet du pays, pour faciliter la fraude des non-minéraux vers les pays voisins, et cela au finish vers l'Europe. Nous nous disons, même si on a toujours dit on a créé des commissions contre la fraude minière à Bukavu comme à Goma, mais il faut voir que même ceux-là qui sont dans ces commissions, ils sont au service de nos autorités pour faciliter la fraude des non-minéraux. C'est que grave, au moment où les peuple congolais vit dans une misère de honte. Moi, je me dis, on a suivi même celles-là qui ont dénoncé à Goma. Ils ont dénoncé même, elles aussi sont impliquées dans les mêmes fraudes. Parce que état au service de certaines de nos autorités qui sont à la base de tout ça. Il faut voir, Pierrot, tous nos ministres nationaux comme provinciaux sont impliqués dans la vente de nos minéraux. Et cela par fraude. Il arrive des fois, on dit non, il faut voir des minéraux de sang. Mais ceux qui le disent, ce sont eux-mêmes qui vendent ces minéraux. Moi, je pense qu'avec le régime en place, même si on parle, même si on dit on a attrapé ceux-là qui voulaient faire passer nos minéraux, il n'y aura pas de solution avec le pouvoir en place. Il faut, comme quelqu'un l'a dit au départ, qu'il y ait un état de droit, qu'il y ait un pouvoir au service du peuple congolais et non un pouvoir au service des étrangers et non des dirigeants qui nous servent comme des mercenaires. Parce que c'est au travers de nos minéraux qu'ils s'enrichissent. Ils ont acheté des villas en Europe, ils ont des milliers de dollars et le peuple congolais est tellement pauvre. Et je pense qu'il faut donner, moi je l'ai dit, comment comprendre qu'un pays qui a des minéraux pareils, nous avons toutes les potentialités du monde. Mais j'ai appris qu'à la présidence, il y a des arriérés. Au niveau des députés nationaux, des arriérés, des députés provinciaux dans tous les pays, des arriérés. Pour vous dire qu'il y a des gens qui ont profité de la richesse du pays, ils sont partis garder cet argent dans des banques et en achetant des villas au moment où le peuple est pauvre. Moi, je me dis, nous devons cesser de pleurer. Toutefois, je demande au peuple de garder notre mal en patience et militer pour qu'on ait un état de droit. Militons pour que nous ayons valablement un état de droit au service du peuple.
Alors, vous estimez que c'est la seule voie, c'est la seule voie, oui, c'est la seule voie pour arriver au changement à Amos, mais dommage, parce que vous estimez que on ne peut pas avoir cette fraude massive, comme l'a dit notre invité, s'il n'y a pas de complicité, s'il n'y a pas d'implication de responsables de certaines structures, mais il faut aujourd'hui qu'il y ait une prise de conscience pour avoir cet état de droit qui doit, en principe, aider à résoudre cette question de la fraude minière. Alors, je reviens à vous, Monsieur Daniel Ngoimbayo, parce que là, on a eu des petites difficultés pour s'entendre avec vous. Alors, j'étais en train de poser la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, dans la question de la traçabilité, y a-t-il des comptoirs d'achat des minéraux bien agréés à Goma où on peut retrouver ces minéraux avant qu'ils soient exportés vers l'extérieur?
Très bien. Le système de traçabilité est bel et bien là, mais il affiche beaucoup de faiblesses. Il faut qu'on se le dise. Quand vous arrivez dans un site minier où il y a 19 puits, qui a 38 puits, donc il faut avoir des agents de traçabilité sur tous les 38 puits pour contrôler la traçabilité de ce minerai. Il existe bel et bien des entités au la province de Nord-Kivu qui travaillent normalement et qui arrivent avant normalement. Mais c'est quoi le problème? Je vous ai introduit. L'homme creuseur qui souffre, il creuse. On l'achète à un mauvais prix. Les négociants qui viennent, qui l'achètent, ils changent aussi un prix. Le plus pauvre, c'est le creuseur. Et quand ils arrivent à l'entité, il y a d'autres prix qui sont négociés, ce sont des confidentialités commerciales. Mais si le creuseur est dans la chaîne ne se retrouve pas, il s'inscrit dans la logique de la fraude. Mais d'autant plus qu'il existe des entités écrans. C'est-à-dire que c'est des entités qui ne sont que de noms, mais c'est des financements de nos amis qui viennent dans des pays voisins, qui sont derrière eux, qui viennent acheter. Ils peuvent mettre le meilleur prix. En ce moment-là, tous nos produits, il reste celui-là qui met le meilleur prix, alors qu'il n'a rien investi pour viabiliser un site et produire. Celui qui a viabilisé, qui met de l'argent pour produire, il doit récupérer, il doit avoir un prix équilibré. Mais celui qui n'a rien fait, qui amène ses capitaux pour acheter, il peut augmenter de prix. Donc, effectivement, il en existe. Mais attention, Pierrot, on insiste sur le problème du droit dans ce pays. Le droit doit devoir commencer dans nos familles. Moi, il ne faut pas que les gens se dissocient des choses pour dire nous voulons un pays de droit. Mais le droit d'en commencer dans nos églises. Ah,
mais oui, mais monsieur Ngoyi, si les gens insistent sur. Oui, mais si les gens insistent sur l'état des droits, parce qu'il doit quand même. Oui, mais il faut qu'il y ait quand même une impulsion. Si les gens estiment qu'il y a les autorités, c'est qu'il faut qu'il y ait une impulsion. Il faut qu'on aille quand même le pouvoir, l'autorité de l'État doit être ressentie, que ce soit dans les sites d'exploitation, dans la traçabilité, même dans la réglementation de l'achat. C'est juste ça. Les gens voudraient aujourd'hui qu'on sente l'autorité à tout le niveau et que ceux qui viennent acheter se réfèrent à l'autorité, se réfèrent au droit. Et c'est pourquoi les gens ont tendance à dire qu'il faut qu'on ait l'état de droit, parce qu'il y a quand même des responsables qui doivent gérer cette situation que vous dénoncez.
Je vous donne un exemple. Nous avons attrapé hier
des véhicules humanitaires. Ce sont des gens qui sont venus prétendant nous aider, mais qui font le minerai. Ils mettent des antennes pour passer gratuitement sur la barrière. Là, je ne vois pas où on parle de droit international. Nous avons des gens ici hier. Nous attrapons un véhicule qui passe par la grande barrière officiellement et qui fait 12 tours de minerai à une moyenne de 700 kilos, ce qui fait par mois, il sort 350 tonnes de minerai vers le pays voisin. Et nous nous trouvons dans son véhicule les fiches de traçabilité du Rwanda dans les mains des Congolais. Ça, ce n'est pas la faiblesse du Congolais, c'est la faiblesse du système de traçabilité. Comment expliquer que nous ne devons avoir nos propres fiches de traçabilité? Et le Congo a fourni beaucoup d'efforts pour respecter les exigences de traçabilité. Et on prend les fiches de traçabilité du Rwanda, on les donne à des fraudeurs, ils prennent nos minerais et puis ils les complètent sur ces fiches-là pour que ces minerais soient pris à l'actif du Rwanda. Donc c'est un effort, tant national qu'international, que nous devons mener ensemble pour protéger nos ressources, sinon il n'y aura plus rien.
Voilà, merci beaucoup. On va revenir à vous, Valérie Laetitia Kinshasa et Claude Zalikassi. La question, elle est vraiment très très profonde. À ces niveaux de fraude, il faut quand même qu'il y ait des actions, des mesures, des structures, des contrôles pour que ces minéreries profitent aux uns et aux autres. 081-890-4969, 081-890-4969, c'est la ligne pour intervenir en direct dans ces magazines.
Identité culturelle. La culture congolaise, dans sa diversité et sa richesse, a un rendez-vous sur Radio Okapi. Identité culturelle aborde la culture et les arts sous toutes leurs formes. Gastronomie, littérature, les us et coutumes et tout ce qui peut redonner aux Congolais sa valeur identitaire. Identité culturelle, un magazine qui vous ressemble. Retrouvez toute l'équipe tout le samedi à 8h30, le mardi à 14h15.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Valérie, vous êtes avec nous ici à Kinshasa. Bonjour.
Vraiment, je suis très content du sujet. Ça, c'est un sujet très important et que le peuple congolais doit suivre avec beaucoup d'attention. Monsieur Pierrot, vous comprenez à travers les interventions de mes prédécesseurs ainsi que celles de l'invité que le pays est vraiment victime d'une grande escroquerie au niveau tant national qu'international. Comment voulez-vous que même les humanitaires, leurs véhicules sont arrêtés? Le véhicule des parlements, le véhicule, pardon, des parquets, des tribunaux de grande instance. C'est-à-dire que nous sommes victimes d'une escroquerie tant au niveau national qu'international. Je crois que nous devons ouvrir l'œil et les bons. Je suis très content des interventions de notre invité. Ce sont des grandes révélations. Mais je regrette que l'invité puisse aussi essayer de défendre quelque part en disant que les droits doivent commencer au niveau de la famille. Oui, c'est ça le rôle d'une famille. Mais en tout cas, soyons sincères et ayons le courage de le dire. Les droits doivent commencer au sommet. Les droits doivent commencer au niveau des dirigeants. Si, au niveau des dirigeants, les droits sont respectés, le petit peuple sera aussi obligé de respecter parce que au moment où on punit les grands, on se demande comment on va punir les petits. Mais quand on punit les petits, ça n'implique pas qu'on va nécessairement punir les grands. Hier, il y a quelques jours, nous avons passé l'émission sur le droit international, disons, sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. Savez-vous pourquoi l'article premier de la Déclaration universelle des droits de l'homme commence par nous dire que tous les êtres humains naissent égaux en droit et en liberté? Mais c'est parce que si on n'a pas encore reconnu l'égalité en droit et en liberté des hommes, on ne peut appliquer aucune justice. Avant de reconnaître tous les autres articles de droit, on doit d'abord reconnaître que tout le monde est, disons, tous les hommes sont égaux. Mais dès lors qu'il n'y a pas d'égalité, dès lors qu'il y a des intouchables, Félicien l'a dit, je suis tout à fait d'accord, il y a des intouchables. J'aimerais aussi que notre invité puisse nous dire, tous ceux qui font partie de cette commission-là, qu'il a vanté, présidence, parlement, tout ça, est-ce qu'ils ont déclaré leurs biens avant de commencer leurs fonctions? Est-ce qu'après leurs fonctions, on peut évaluer leurs biens? Parce que ce sont souvent de telles personnalités qui s'enrichissent beaucoup. On vient de condamner un député là, je suis content qu'il soit condamné parce que on a senti le Fabi Batumite, un député provincial. Mais je commence à me demander si certains politiques honorés aussi, qui vous n'ont pas chacun des carrés miniers. je commence à me demander si les ministres dont on nous parle ne sont pas des entreprises d'économie d'exploitation. Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Comment expliquer que nous pouvons avoir plusieurs ministres au nord et au sud, si vous, là où il y a des minéraux, au moment où nous commençons à découvrir qu'il y a des députés qui sont arrêtés parce qu'ils ont, ils sont impliqués dans des fraudes. Donc, on comprend que c'est le problème des minéraux et on doit inventorier toutes ces milices-là. On doit aussi chicoter tous ceux qui font du mal et on doit les arrêter. Mm-hmm. Je suis sûr qu'on ne doit pas s'arrêter à Batumi, que c'est qu'il y en a beaucoup. Si c'est lui qui a fait, donc il y en a aussi beaucoup. Mais j'aimerais que l'invité nous réponde un peu sur la déclaration des biens de ses membres avant tout comme en, disons, alors, en commençant tout comme voilà. En terminant les fonctions.
Oui, oui.
Et aussi que l'invité évite de nous faire voir que le droit doit d'abord, qu'il insiste sur le droit dans les familles et églises, qu'il insiste sur les grands. Je veux que ce qu'il en soit ainsi, mon père.
Voilà, merci beaucoup Valérie. D'ailleurs, nous vous disons déjà que demain, nous allons aborder cette question des gens qui ont été arrêtés pour fraude, détournement des biens, parce qu'on l'avait évoqué le vendredi passé quand nous avions parlé de la lutte contre la corruption. Il y a des actions qui ont été menées. On va aborder cela dans ta parole aux auditeurs demain. Ça, c'était une parenthèse. Mais vous auriez souhaité voir l'invité nous dire si les membres de la commission et ceux qui sont impliqués dans la gestion de la question de la fraude ont-ils déclaré leurs biens pour qu'on ne puisse pas aussi les retrouver demain accusé hein, d'avoir été impliqué dans la fraude qu'ils ont combattue. Il pourra nous répondre à cette question. Claude, vous êtes à Likassi. Bonjour Claude.
Bonjour monsieur. Par rapport au sujet que vous êtes en train de débattre, moi je me dis ceci. Lorsque la considération d'un pays est entretenue au niveau des autorités ou de gens qui sont censés gérer notre pays et ses richesses, ça devient compliqué et c'est ce qui est à la base de tout ce qu'on constate au niveau de l'Est là. À ma connaissance, je pense même qu'à l'Est, il n'y a pas une entreprise étatique qui s'occupe de l'exploitation du coltan. Mais vous voyez qu'il y a du coltan qui sort à tout moment et parmi ceux qui font sortir, c'est soit les autorités administratives, soit ce sont les autorités militaires, soit ce sont des gens de renseignement. Donc bref, il y a même une rébellion entretenue et qui essaie de faire cela. Et il y a même des infiltrés au sein des services clés de l'État, des services de souveraineté. Voilà pourquoi nous disons que notre pays va toujours continuer à souffrir. Parce que c'est un pays qui est infiltré. Et puis, vous savez, il y a un problème. Hein? Et je vous parle, par exemple, ici au Katanga. Le cuivre et le cobalt. Au moment où nous parlons, les prix sont très élevés sur le marché international. Donc, c'est le moment où on devait vivre les booms économiques où l'argent devait beaucoup circuler. Mais ça ne circule pas parce que cet argent est gardé par certaines autorités qui pensent qu'avec les élections qui arrivent, il faut garder, cacher de l'argent très loin. Donc, même notre budget devait être réduit à la hausse parce que les prix du cobalt, les prix du cuivre, au moment où nous parlons, c'est pratiquement trop élevé et on n'a jamais atteint ces montants-là. Informez-vous sur le marché mondial, vous allez voir que même notre budget devait être mis à la hausse. Mais aussi, il y a un autre dossier. Moi, je regarde, dans notre pays, nous avons le ministère de mines. Mais je me demande comment on va avoir un même ministre pendant pratiquement plus de 10 ans. Je crois que la fraude peut être entretenue aussi à ce niveau-là. Le mieux serait de changer parce que ce sont des ministères où, si on voulait bien contrôler et voir les fraudes et autres, il faut procéder par changer d'abord les ministres. Et en ce moment-là, vous mettez un nouveau ministre qui peut essayer de mener aussi ces investigations. À ce moment-là, on va dénicher tous ces cas de fraude-là et décourager tous ces comportements.
Merci tant beaucoup. Merci beaucoup, Claude. Vous estimez que ça, c'est... Oui, c'est une question de conspiration. Quand il y a autant d'implications et ça va être très difficile, on va donner la parole à notre invité Daniel Ngoyi. Il y a cette question qui a été posée par Valérie qui voulait savoir si les membres de la commission déclarent leurs biens pour que demain ils ne soient pas aussi accusés d'avoir été trafiqués. Vous avez dit qu'il y a la faiblesse aujourd'hui dans le système des traçabilités. Ça, c'est une question très importante. Mais quelles sont aujourd'hui les actions concrètes, très très concrète, à part les interventions ponctuelles d'attraper les gens, par exemple, qui ont dans leur véhicule les minéraux, mais quelles sont les actions concrètes que la commission met en place pour effectivement réduire cette fraude, M. Ngoyi?
Je ferme
terminer, je commence par rassurer notre intervenant Delicacy, qui a aussi une société étatique qui exporte le coltan. Sakiman, c'est une société de l'État. Ça, c'est peut-être précisé parce qu'il a dit qu'il n'en avait pas. De deux, j'ai humblement un Congolais positif. Je peux inverser la pyramide. Le droit doit commencer par le sommet vers le bas. Mais je tiens à l'informer que si tout un chacun là où il est, dans tous les domaines, ne l'applique pas, même si c'est le sommet qui le fait, ça poserait le problème. J'inverse du sommet à la base, mais chacun dans tous les domaines doit respecter l'état du droit. Alors, j'aimerais quand même, Pierrot, vous préciser. La Commission nationale de lutte contre la fraude minière n'est pas un service. La Commission nationale de lutte contre la fraude minière, c'est un regroupement de spécialistes de tous les domaines. Parce que moi, quand j'attrape un véhicule où il y a un militaire, je ne suis pas qualifié de traiter les dossiers, je prendrai les dossiers, je l'amènerai à l'auditorat militaire. Voilà pourquoi l'auditorat militaire est membre. Si j'attrape la fraude à un civil, j'amènerai au parquet général, parce que c'est le parquet général qui doit traiter les dossiers, qui est membre. Donc c'est le parquet, c'est les institutions, c'est l'armée qui constitue. Ce n'est pas une institution où on dit, on vient... On déclare, moi par exemple, CEC, nous sommes des centres d'expertise et d'évaluation. Dès qu'on attrape la marchandise, moi CEC, je prends l'échantillon, j'analyse dans les laboratoires du CEC, je calcule la valeur marchande, je mets à la disposition de la commission pour dire cette marchandise vaut autant. Donc chacun dans son domaine, la DGM est censée vérifier à la frontière, la DGDA est censée vérifier à la frontière aussi, à voir les exportations, comment ça se passe. L'État a voulu mettre sous pied une structure coordonnée par le coordonnateur national, M. Pascal Nyembo, où chacun est censé apporter son expertise. Je vais vous dire tout d'abord comment la fraude s'est opérée ici et comment nous en sommes arrivés à détecter toutes ces fraudes et vous dire les mesures que nous avons tenté de faire. C'est difficile, chers Congolais, c'est l'affaire de nous tous. Lutter contre la fraude, c'est pour nous tous. Une montagne de coltan transportée, eh bien, c'est terminé parce que la montagne s'est mise en place après 500 millions d'années. Ce n'est pas dans une année que vous aurez cette montagne. Ce ne sont pas des champs de maïs où ça doit encore pousser. Les gens ont commencé ici au Nord-Kivu par faire la fraude dans des camions. Ils prennent des pommes de terre, ils mettent des produits là-dedans. Il fallait adapter cette stratégie pour comprendre. Ils sont passés par la deuxième méthode de prendre des bidons de lait qu'ils fabriquent à Massissi. Ils mettent de lait et le coltan dedans. Ils passent avec... Ils ont changé à prendre des motos. Ils enlèvent le carburant dans les motos, ils prennent le carburant et mettent dans un bidon, et les réservoirs, ils y mettent du coltan. Nous avons détecté. Ils sont venus à la détection des mamans vulnérables. Ils prennent les mamans enceintes, les mamans qui ont des bébés, on leur confie du coltan parce qu'à la barrière, ils ne seront pas contrôlés. Nous avons détecté. Ils ont pris maintenant la toute dernière stratégie, c'est d'utiliser les véhicules des officiels et des humanitaires parce qu'ils ont la priorité sur la barrière. Nous avons détecté. Qu'est-ce que nous avons mené en province? Le gouverneur ne dort pas et la commission. Nous avons d'abord demandé, dans les résolutions du 1er juin, coordonnées par le gouverneur national, de procéder à l'évaluation du contrat qui nous lie avec IPRI. Parce que la traçabilité, il y a un contrat que le gouvernement a fait avec IPRI. Nous avons suggéré, sous le contrôle de M. Pascal Nyembo, qui est le coordonnateur, d'évaluer d'abord ce système-là de traçabilité pour voir s'il marche ou s'il ne marche pas. Au niveau de la province, nous avons pris les faiblesses de ce système-là, nous avons réuni tous les spécialistes Pactipri et tous les partenaires, nous avons mis sur pied un système amélioré de traçabilité, veut dire capter les minéraux dès la production. Là où on les lave, nous les captons, nous les mettons dans des dépôts qui sont censés être agréés par le chef des divisions. En ce moment, les quantités produites, nous les méprisons, nous mettons le tag et puis nous les ramenons. Mais nous avons été en Massissi, l'insécurité nous a effrayés, nous n'avons pas pu mettre ça en place, c'est ainsi que cette question est prise en charge par les services de sécurité pour d'abord sécuriser les coins avant que nous puissions mettre en place. Nous avons renforcé des barrières. Il y a des barrières qui fouillent tout le monde, qui que vous soyez. C'est ainsi que nous attrapons les véhicules de parquet de grande instance.
Okay.
C'est ainsi que nous arrêtons les véhicules de
voilà.
Des
humanitaires. Et d'ailleurs,
nous
oui. Voilà. Et c'est pour cela dans ces débats, dans ces débats, Monsieur Ngoï, oui, exactement. C'est pourquoi dans ces débats, Monsieur Ngoï, nous élargissons avec cette sensibilisation pour que quand même ceux qui sont impliqués, les uns et les autres, et surtout que les gens soient arrêtés, qu'ils soient jugés. On revient à vous, le temps d'écouter Placide qui nous appelle de Kichanga. Rappelons qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui commentent ces sujets sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs, comme Alain, qui estime que la structure a le malheur d'avoir reçu la mission de combattre les intérêts de ceux qui l'ont mis sur pied. Il est notoirement connu que l'économie souterraine est assurée par les dignitaires, les militaires, les administratifs, qu'à ces moments, ça sera difficile aussi de faciliter la tâche à la commission. Il faut le dire, c'est Alain qui l'a dit sur la page Facebook, hein, Edouard Kafalaï et même Isaac Bampouri qui est venu aussi sur la question du trafic d'influence. Et puis en attendant, on est avec vous, Placide, vous êtes à Kichanga, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste.
Oui, on vous écoute, Placide.
Bonjour d'abord à tous les auditeurs de la radio Okapi.
On vous écoute.
Monsieur Pierrot, quand moi je suis bien cette information, cette décision, quoi, je dirais que tout ce que les auditeurs disent à la radio Okapi, c'est exact. Tu vois, je me demande pourquoi, quand je suis de telles histoires, parfois quand j'ai commencé à suivre les paroles aux auditeurs qui organisaient par la radio, et je me demande est-ce que notre gouvernement, quel font notre gouvernement en réalité pour que tous les gens-là qui se font attendre dans notre pays et qui met les citoyens, la population rwandaise, c'est la vie économique et tout, est-ce que notre gouvernement n'a pas la capacité en réalité de mener et de faire tous les moyens possibles pour que toutes ces histoires-là finissent au moins dans notre pays et que
Faire voilà. Exactement, c'est ça. Oui, c'est ça les soucis que nous avons. Oui. Mm-hmm. Allez-y, oui. Vous voulez donner l'exemple, Placide, oui.
Oui, avec. Tu vois, le Rwanda, c'est un petit pays par rapport au nôtre. C'est un pays, je dirais, à 80% dépend de nous. Mais je me pose des questions. Pourquoi nous, Congolais, quand nous voulons franchir la frontière pour entrer au Rwanda, on nous exige des histoires, on nous donne beaucoup de modalités à faire, pendant que, là, au Rwanda, pour qu'ils entrent dans notre pays, ils le font, c'est presque gratuitement. Tu vois, ils entrent quand ils veulent, et comme ils veulent, là, il n'y a pas de contrôle. Tu vois, tous les minéraux qui passent à la frontière, je me demande, est-ce que le gouvernement, notre gouvernement est réellement au courant, sur le gouvernement, en rapport à tout ça.
Je crois, Placide, parce que là, votre ligne sort entrecoupée. Placide, votre ligne pose des petits soucis. Mais dis-moi, le fait d'organiser ces débats, c'est d'interpeller les uns et les autres. Vous avez demandé si le débat d'un parole aux auditeurs est suivi par nos autorités nous suivent. Hein. Il y a, par exemple, notre invité, c'est un représentant du pouvoir, d'une structure, du pouvoir public. Alors, et les soucis, c'est qu'on arrive vraiment à prendre des mesures hein, pour permettre à ceux qui s'est minéré et profitent aux Congolais. Boni, vous êtes à Beni. Bonjour, Boni. Boni, vous êtes avec nous, bonjour. Voilà, des petits soucis pour avoir Boni. Nombreux sont ceux qui commentent les sujets sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Franck estime que chez nous, de telles pratiques ont tellement pris des proportions terribles, si bien que parfois certains individus s'avèrent plus riches que l'État congolais à cause de cette chaîne de corruption dans tous les circuits. Et puis, en plus, ça se passe, ça se vit, mais sur les plans juridiques, rien ne fait. Mais rappelons quand même qu'il y a des gens qui ont été arrêtés par rapport à cette question, mais on aurait aimé que cela puisse s'étendre ailleurs. Est-ce que Boni est revenu de Beni? Boni, vous êtes avec nous? On a des petits soucis pour joindre Boni, qui est à Beni. Et Daniel Ngoimbayo, vous aviez vous-même dit dernièrement que vous subissez des pressions du genre trafic d'influence, mais quand vous subissez des pressions, y a-t-il eu quand même des gens qui ont été assignés en justice, qui ont tenté de vous contraindre à ne pas bien faire votre travail?
Merci Pierrot. Je voulais d'abord dire à nos amis qu'il y a deux phases. Procéder au diagnostic, c'est une chose, et la thérapie, ça en est une chose. Mais il faut quand même féliciter la commission national de lutte contre la fraude minière en province, qui a diagnostiqué.
Détecter la maladie et la mettre à la disposition de tout le monde, c'est déjà beaucoup. La thérapie, c'est une affaire de nous tous. Pour ce qui est de trafic d'influence, je vous rassure que le coordonnateur national, M. Pascal Nyembo, n'aménage personne. Quand il se rend compte que vous soyez et qu'il est renseigné, que vous êtes dans la fraude, il vous attrape. Mais me mettre au micro ici à citer les pressions que j'ai subies, vous savez que je gère une question de millions et des millions de minéraux qui échappent à notre pays. On a présenté un tableau de 36 millions, mais je vous dis que si nous aurions dû tout maîtriser, surtout les minéraux qui sortent par le lac, on n'aurait pas moins de 120 millions de dollars. Donc nous ne captons que 30% de nos productions. C'est très sérieux. Et les menaces que nous subissons, je suis très flatté de dire que ce n'est pas sous ce micro-là que je vais dire que tellement menacé.
Voilà.
Je confie tous ceux qui me menacent et à la justice et principalement au coordonnateur national
voilà.
De la commission de
et parce que vous avez évoqué la question sur les lacs, rappelons quand même qu'on a deux bateaux de marines congolais qui doivent en principe surveiller. Est-ce que le travail est assez plus efficace pour vous aider vraiment à mettre la main sur ceux qui s'échappent par le lac?
Non, c'est très 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 difficile. Nous n'avons pas de bateau. Vous avez déjà vu un hors-bord arrêter un bateau. Un grand bateau qui arrive à Minova, qui prend les minéraux de Numbi, qui prend les minéraux de Masisi, Ubaya, Ngungu, il charge des tonnes dans des bateaux nocturnes. Est-ce que nos services ont un autre bateau pour arrêter un bateau? Moi, je n'ai jamais vu un hors-bord aller arrêter un bateau. Donc, il y a toujours un problème sérieux de la logistique qu'il nous faudrait pour arrêter la problématique sur le lac, d'autant plus que d'abord, il y a un souci sur le lac. Le lac est partagé entre le Nord Kivu et le Sud Kivu. Les fraudeurs, comme ils savent que la province du Nord Kivu est mobilisée avec les gouverneurs comme un seul homme pour éradiquer la fraude, il peut prendre les minéraux du Nord Kivu et il va avec ça du côté du rive du Sud Kivu. Et nous, on n'a pas capacité d'aller intervenir du côté du Sud Kivu. C'est à la province du Sud Kivu de nous aider. D'ailleurs, je porte à votre connaissance pour dire parmi les efforts, le gouverneur a émis un ordre de mission où il a dépêché son ministre et tous les membres de la commission de lutte contre la fraude minière du Nord Kivu pour aller voir nos collègues du Sud Kivu de manière à mettre les stratégies ensemble et contrôler les lacs.
Voilà.
Donc nous sommes en train d'essayer de faire tout ce qu'on peut faire et nous demandons que ce soit l'affaire de nous tous.
Mal, voilà.
Ici, par exemple, je tiens à vous donner une information, M. Pierrot.
En 30 secondes, rapidement, oui.
La société civile que je sollicite à ce juste titre. Le véhicule du parquet de grande instance, c'est la société civile qui nous a arrêtés à partir des saqués. Voilà le rôle que nous attendons de nous tous.
Voilà. Alors, on va écouter deux derniers auditeurs. Oui, on va écouter les derniers auditeurs. Daniel Ngoyi, on va revenir à vous. Bonnie, je crois que cette fois-ci c'est bon. Bonnie, vous êtes à Béni. En 40 secondes, hein, parce qu'on doit courir vers la conclusion. Béni, vous êtes avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour.
Voilà, vous avez suivi les uns et les autres en 40 secondes votre point de vue par rapport à cette question des fraudes.
Merci beaucoup, M. Gilles. Je voulais un peu intervenir un peu sur la fraude. En fait, moi, je pense que la fraude, ceux qui sont à la base, nos autorités. Parce que, voyez un peu ce qui se fait aujourd'hui. Il y a des buildings qui sont en construction aujourd'hui. Et cet argent-là vient d'où? Ça vient de la fraude. Mais ce que moi je voulais dire, c'est quoi? C'est le problème ici chez nous à Béni. Il y a le problème des fraudes du café et le cacao. Je voulais intervenir un peu là-dessus parce que ça passe au vu de tout le monde. Moi je pense que ce sont les autorités militaires, politiques ou militaires qui sont à la base de la fraude. Ils sont à la base de la fraude parce que ça se voit. Ils disent que non, quand il y a un véhicule qui vient, c'est pour un officier quelconque. Alors, c'est difficile maintenant pour arrêter.
C'est difficile pour arrêter.
Et puis, quand vous arrêtez, demain,
voilà. Ouais, c'est ça vraiment le travail qui doit être fait. Ouais, de sensibiliser les uns et les autres, de pouvoir dénoncer, mais on ne saura pas confirmer que tous les immeubles qui poussent proviennent de la fraude. C'est pourquoi notre ami Valérie avait demandé à l'invité si au niveau de la commission on fait la déclaration de ses biens avant de prendre fonction. Je crois que Daniel Ngoyi pourra nous répondre là-dessus lors de la conclusion. Bintou, vous êtes à Kimpessé et puis en 45 secondes, votre point de vue autour de cette question.
Merci beaucoup, M. Perrault. Merci à tous de m'avoir accordé la parole. Juste des petites questions. Pourquoi les gens veulent frauder? Qui facilite la fraude et qui sont impliqués dans cette filière-là de fraude? et quels sont les moyens dont ils disposent pour y mettre fin.
Et là, nous mettrons au moins une année pour mener les enquêtes et répondre à cette question, à ces questions, je crois.
Et pour parler du sujet, mais pour mettre fin aux fraudes, il y a 4 points. Le premier point, c'est la répartition des revenus nationaux, et de le faire de manière correcte, puisque ça ne se fait pas de manière correcte dans ce pays. Deuxième point, c'est de diminuer les taxes. Puisque si les gens fraudent, il y a aussi un problème de trop de taxes dans notre pays.
Et troisième point.
C'est le deuxième point de diminution des taxes et officialiser les comptoirs où les gens doivent vendre de manière officielle.
Exact.
Troisième point, c'est assouplir les conditions d'octroi des minerais. Et pour terminer, c'est demander aux entreprises minières de construire dans les coins où ils sont en train de s'installer. Puisque il n'est pas normal que les gens qui vivent dans des conditions misérables pendant qu'on est en train d'exploiter les
dans leur milieu. Mais c'est très important les 4 propositions, Bintou, mais les 4 questions posées, je crois qu'on aura peut-être une année de recherche pour savoir d'où ça vient, d'où ça part. Mais l'invité a expliqué déjà au début les grands éléments autour de cette fraude. On revient à vous, Daniel Ngoimbayo, pour terminer cette émission. En une minute, vous avez suivi les uns et les autres, mais à cette question de notre ami Valérie qui voulait savoir si les membres de la commission déclarent leur bien pour qu'on puisse aussi savoir que demain ils ne soient pas accusés que quand ils étaient à la commission ils ont été impliqués. Et en une minute pour terminer, monsieur Daniel.
Merci beaucoup pour l'intérêt dont vous portez à la fraude minière. D'abord, j'aimerais que parler simplement des autorités militaires. Je crois que nous avons arrêté un véhicule dénommé Graben Security qui était avec un policier, donc nous n'avons pas aménagé parce qu'il y avait un policier, qui que ce soit. Nous essayons de faire de notre travail, nous arrêtons. Parler de la répartition, commencez par les mobiliser pour vous les répartir. Vous mobilisez très peu, vous répartissez très peu. Parler des taxes, effectivement, les taxes, c'est pas nous qui les fixons, les taxes, c'est à l'Assemblée. À chacun de faire son travail. Si les édits de l'Assemblée sont faits, nous n'avons qu'à travailler.
Et pour conclure, alors, oui.
Les entreprises ont de l'énergie. Il faudrait que nous mobilisions de l'argent avec nos minéraux pour avoir la capacité énergétique et avoir des entités et des usines.
Et pour conclure en 30 secondes.
Pour avoir de l'énergie, il faut avoir beaucoup d'argent. Donc ce sont ces minéraux ici qui doivent nous aider à avoir les infrastructures basiques.
Merci.
Qui doivent aider nos amis. Les pommes de terre, oui, nous pouvons le faire, mais nous n'aurons pas assez de devises.
Merci
vraiment,
beaucoup, Daniel.
Que Dieu nous a
merci.
Donné, transformez-le en infrastructure basique, nous aurons des routes, nous aurons des universités, nous aurons
voilà. Des hôpitaux. Merci beaucoup, Daniel Ngoimbayo, merci. Voilà, merci beaucoup, Daniel Ngoimbayo, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes responsable de la cellule de lutte contre la fraude minière au Nord Kivu. On pourra revenir sur la question des mines, peut-être la semaine prochaine, avec la révision du code minier, mais la fraude, on pourra peut-être en parler encore. C'est pour cela que nous recevons Nico Kalambay dans ce studio. Nico, bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Et demain, on se retrouve à 11h. Apparemment, nous faisons la suite du vendredi passé.
On a parlé de la corruption le vendredi passé. Et demain, comme ceux qui suivent l'actualité savent que les services du conseiller spécial du chef de l'État en matière de bonne gouvernance, lutte contre la corruption et financement du terrorisme ont procédé à l'arrestation de plusieurs hauts cadres de la DGRK, Régie financière de Kinshasa, dont le directeur général et son adjoint, pour faux en écriture, corruption et détournement des biens publics évalués en millions de dollars via les comptes parallèles. Et d'autres hauts fonctionnaires ont été aussi arrêtés, notamment à l'urbanisme et à Habitat et à l'agence congolaise des grands travaux. Plusieurs observateurs qui souhaitaient la poursuite de cette opération estiment qu'elle va contribuer à lutter contre la corruption en République démocratique du Congo. Donc on se retrouve demain pour réfléchir autour de ce thème.
Voilà, et les auditeurs peuvent déjà commenter ces sujets dans quelques minutes ou après une heure, ça sera sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs.
Et il y aura également cette émission que vous venez de présenter qui sera à dispo. Et c'est important qu'ils commencent à nous appeler, à se faire enregistrer demain déjà à 10h.
Et c'est au 081-890-4969. Merci beaucoup Nico, merci à tous.
Merci Pierre.
Allô? Allô? Mais ils ne répondent pas?
Merci à lui, il s'appelle Alain Goy, il a assuré la mise en onde de ce magazine que Pierrot et la Meji vous a présenté sous la supervision de Martin Seboujangwe. On se retrouve demain. En attendant, passez des moments très agréables en compagnie de Radio Okapi. Au revoir.